débutons sans plus tarder avec l'artiste verrière d'origine espagnole, plus précisément, elle est originaire de Catalogne. Oui. il s'agit de l'artiste Montserrat Duran Montadas qui vit, je vous dirais, une période de haute visibilité. Elle est spécialisée en verre soufflé, en verre au chalumeau et grande exploratrice de ce médium. En 2017, elle a reçu le Canadian Clay and Glass Gallery Award for Glass et le prix Jean Cartier de la Relève. En 2019, elle obtient le prix prestigieux, j'étais présente là, le prix François Oudet. C'était un très beau moment. Elle présente en 2021 un solo titré « Engendrer l'impalpable » au Centre d'art Jacques et Michel Auger de Victoriaville, commissarié par Pascal Baudet, et d'où l'origine donc de cette première monographie consacrée à Montserrat Duran Montadas, dont on s'apprête à parler. Et ben depuis le cette monographie-là, d'ailleurs, elle a été lancée le 10 mars au Centre Circa dans le cadre d'un événement très spécial. Une deuxième édition, je croirais, l'année passée, post-invisible. On vous expliquera ce que c'est. Et depuis le 10 décembre dernier, elle présente une exposition intime au Château du Frêne intitulée « Vestiges de l'âme » et présente une œuvre d'art public au musée Armand Frappier de Laval qui va être inaugurée rien de moins que demain. C'est bon. Alors, mentionnons de plus que notre autre invité, de Marc-Pascal Baudet, docteur en histoire de l'art de l'Université Rennes en France, Rennes 2, commissaire indépendant d'une trentaine d'expositions en art contemporain, auteur de plus de 150 textes sur l'art moderne et contemporain. Alors, bienvenue toutes les deux. Après cette musique, un petit peu, on va écouter d'abord une musique d'Alexandra Strelinsky nommée Un nouveau départ, Le nouveau départ. Alors, nous entretiendrons après ce pont musical principalement sur la pratique artistique de Montserrat Duran Montadas, la magnifique publication dont j'ai eu grand plaisir à lire, qui lui a été consacrée. L'exposition en cours, et on va le faire en compagnie, bien sûr, de la commissaire Pascal Baudet et l'artiste même, le temps de nous installer confortablement, de nous mettre dans l'ambiance. Alors, bienvenue, Pascal Baudet, je vous le mentionnais, Montserrat Durand Montadas. Quel plaisir de vous recevoir en studio. C'est la grande visite pour
merci,
nous.
Merci de l'invitation.
On procède le plus souvent maintenant des entrevues par téléphone. Alors, on est vraiment ravis quand les gens se déplacent ici en studio. Alors, je m'adresse d'abord à Montserrat Durand Montadas. Tout un parcours, donc, qui vient d'être décrit à votre actif ces dernières années. Félicitations.
Merci beaucoup.
Et je pense que vous êtes très heureuse parce qu'à chaque fois que je vous vois, vous êtes tellement souriante. Alors,
oui.
Je pense que vous êtes très heureuse de cette période vraiment inspirante pour vous. Si vous nous présentiez d'abord votre pratique artistique et toute sa signification, il y en a des questions dans la publication, la somptueuse, je vous dirais, publication de magnifiques images. Et donc, toute votre pratique artistique qui prend sa source bien avant votre arrivée au Québec, en 2012. Donc, ça prend sa source dans votre vie familiale, votre condition de femme. Si vous nous présentiez un peu cette source d'inspiration dense.
Oui, donc en fait, c'est ça, j'essaie de m'inspirer de mes expériences, de ce que j'ai vu, pour arriver au public. Donc, j'exprime mes idées, ce qui m'arrive dans la vie pour avoir une connexion avec les autres personnes. Je pense qu'on est plus semblable de ce qu'on pense, on reste. On ressent beaucoup de choses d'une façon très semblable, donc j'essaie d'exprimer certaines idées pour qu'on aille en lien ensemble, oui.
Oui, d'accord. On a juste présentement le micro, on s'excuse de cette petite interruption. Donc vos sources, c'est ça, je pense que votre famille est une source d'inspiration d'importance.
Oui, beaucoup. Peut-être le fait d'être
en Catalogne.
Oui, le fait d'être immigrante toute seule, d'arriver ici au Canada toute seule et laisser ma famille ailleurs, il vient fait que j'y pense souvent et que c'est quand même très important pour moi, surtout les femmes de ma famille.
Oui.
Il en était vraiment important et j'ai pu comme le remettre à sa place qui ait comme de la lumière dessus.
Oui. Et vous, écoutez, vous avez immigré en raison d'une situation économique difficile en Espagne, en Catalogne.
Oui.
Pour vous, le textile revêt une importance, beaucoup d'importance. Hein? C'est vraiment représentatif de votre vécu familial.
Oui.
Vous avez grandi dans le milieu du textile, si vous en parliez.
Donc, en fait, c'est ça. Moi, je ne viens pas de Barcelone telle qu'elle. Je viens d'une ville qui est à côté, qui s'appelle Terrassa. C'est une ville industrielle où il y avait beaucoup des industries textiles à l'époque de mes grands-parents. Donc, tout sortait dans la rue et c'était tout des gros édifices où ils fabriquaient du textile. Et mon grand-père, il travaillait dans une de ces usines et ma grand-mère, il recevait des tissus de mon grand-père. Il faisait tous les vêtements de ses enfants et de toute la famille avec ses vêtements. Donc, le textile était vraiment dans notre famille. Et moi, je ne me suis comme pas trop rendu compte. J'ai appris à coudre avec ma grand-mère, avec ma tante, avec ma grand-tante aussi. Donc, c'était comme très commun de parler du crochet, des tissus dans la famille, mais je ne me suis pas rendu compte tant que je ne suis pas arrivée au Québec.
Ah oui, hein?
Et là, je me suis dit, il y a quelque chose qui manque à moi, ces réunions familiales, ces réunions entre femmes, dans lesquelles on peut parler de tout ce qui est arrivé aujourd'hui. J'ai vu la voisine, j'ai vu telle personne, mais en faisant la couture. Donc, c'est comme un moment de se réunir autour de la création que j'avais plus avec moi parce que j'étais toute seule. Et je pense que c'est comme ça que je me suis dit, il faut que je me remette à coudre, il faut que je remette à toucher le textile. Et j'ai fait ça. Mais moi,
et c'est comme une activité transitionnelle, ça rétablissait un lien avec votre famille.
Oui, c'est comme
cette
activité. Oui.
Mais est-ce qu'il y a du tissu que vous avez amené avec vous, des textiles que vous avez amené avec vous, que vous avez intégré dans vos œuvres?
Oui, c'est super intéressant parce qu'au début, quand j'ai commencé à utiliser des draps de lit que ma grand-mère et ma mère y avaient cousu dessus, donc ils avaient brodé des initiales de nos noms, donc mon nom, le nom de ma soeur, le nom de ma mère.
C'est quelque chose.
Donc oui, c'était des tissus de la famille. Et après, quand j'ai voulu aussi utiliser d'autres tissus, je me suis rendu compte que j'ai cherché toujours des tissus fleuris, très colorés, donc des tissus, qui
de votre vécu familial.
Exact, qui me faisaient penser à
écoutez, et qu'on va retrouver retrouver un peu cette intimité dans l'exposition en cours au Château du Prince.
Oui, oui.
Mais écoutez, là, vous avez vraiment votre vécu familial qui vous a beaucoup inspiré et vous avez votre condition de femme. Oui. Bon, c'est un peu plus difficile peut-être d'en parler. Allez-y comme vous vous sentez à l'aise d'en parler.
Oui. Ben, en fait, c'est ça. Oui. C'est quand je suis arrivée ici au Québec, je me suis posé la question, c'est quoi former une famille en étant loin de sa famille aussi?
Oui.
Et ben, je le savais déjà, j'ai la difficulté à tomber enceinte. Donc, j'ai commencé à explorer toute cette thématique-là et je me suis rendue compte que je n'étais pas la seule, qu'en fait, il y a beaucoup de femmes qui sont infertiles ou qui ont la difficulté pour tomber enceinte ou qui ne veulent pas être mères. Donc, il y a beaucoup de maladies aussi dans le système reproducteur duquel on ne parle pas. C'est comme tabou à en parler. Et je me suis dit, pourquoi pas le faire à travers de l'art, à travers de mes œuvres. Je dis que c'est un peu comme comme si je faisais de l'art thérapie parce que mes pièces sont un peu mes enfants aussi.
Ah, voilà.
Donc, mes créations ont commencé comme ça, oui.
Donc, elles sont chargées de sens et de questionnements sur votre identité, sur votre relation à la maternité. C'est quelque chose de fort qui se dégage de vos œuvres.
Oui.
Écoutez, merci de nous avoir... ça tient du témoignage d'une artiste qui vit, a beaucoup, beaucoup d'émotions à travers ses œuvres. Mm-hmm. Alors, on va passer... Pascal Baudet, merci encore une fois de cette disponibilité aujourd'hui. Voilà donc une magnifique occasion de découvrir ou redécouvrir la pratique de Montserrat Duran Montadas avec cette monographie, c'est tout un événement, une première monographie, hein, Engendrer l'impalpable, quel titre? Alors si vous me parliez de, c'est un titre qui a beaucoup d'impact, si vous me parliez de la genèse de cette publication-là, je pense que ça part d'une exposition, de vous et d'une première exposition.
En fait, ça remonte même plus loin que ça, ça fait déjà quelques années que Montserrat et moi, on se connaît.
Oui.
Et on a commencé à travailler ensemble. J'ai commencé à écrire un article sur elle. Ça, c'est la première pierre. Après, ben, progressivement, on a eu des idées d'exposition. Une première exposition à la galerie Yves-Louis XVI à Saint-Gabriel-de-Brandon.
Ah.
Et dans la foulée, je me suis dit, bon, étant donné que Montserrat n'avait aucune publication uniquement consacrée à elle, je me suis dit que ça pourrait être un beau projet qu'on pouvait mener ensemble. Donc, grâce au Conseil des arts et des lettres du Québec, ça a pu prendre forme.
Oui.
Et donc, je me suis chargée de tout ce qui concerne la publication, de l'édition jusqu'à...
On vous en remercie.
Oui, merci, je vous en prie.
Beaucoup de travail, hein?
Oui, c'est beaucoup de travail, mais en même temps, c'est quelque chose que j'ai déjà fait. J'ai de l'expérience des publications.
Oui.
Et ça a été un grand plaisir de travailler aussi avec Montserrat et aussi de travailler avec la graphiste Nathalie Racicot.
Oui.
Alors, je pense qu'on a fait toutes les trois un très beau travail.
Et le photographe, écoutez, vous avez des somptueuses photographies.
Oui, c'est René Rio. Merci, mon photographe.
C'est un plaisir
Donc,
de tourner les pages.
On avait toutes les conditions idéales réunies pour faire quelque chose de vraiment intéressant. Et je voulais que ce soit agréable à lire. Je voulais aussi un texte qui ne soit pas trop hermétique, qui explique bien le parcours de Montserrat depuis Tajassa jusqu'à ici.
Depuis 2009, en fait, que vous êtes que Montserrat, vraiment, ça donne aux arts.
Voilà, exactement. Et donc, le début, en fait, ce qui a commencé, quand elle a commencé à exposer jusqu'aux œuvres de, il y a maintenant un an et demi.
Oui.
Et donc, le Centre Jacques et Michel Auger nous a aidés aussi.
Parce que cette exposition-là porte le même titre que votre publication, donc c'est en lien, là. C'est à partir de cette exposition-là que vous avez
C'est de l'exposition, mais disons qu'elle a contribué à l'existence. Oui, c'est comme un projet hybride un peu. C'est toujours un peu compliqué de financer.
Mais l'occasion de réunir toutes les œuvres en un lieu
un peu éloigné. Oui, mais ce qui était important aussi, c'était de retracer le parcours visuel de Montserrat, donc montrer les œuvres qu'elle avait faites depuis le début et de pouvoir, qu'on puisse voir littéralement dans les œuvres l'évolution du travail de Montserrat avec le verre et avec le tissu.
Oui, c'est ce qui caractérise les œuvres de Montserrat Duran Montadas, des œuvres qui allient vraiment le verre et le textile. Et ce que je trouve intéressant dans votre publication, Pascal Baudet, c'est que vous mettez de l'avant un courant, ça s'appelle de reskilling, requalification. Si vous nous en parliez, parce que je trouve ça très intéressant. Non, mais ce que vous dites, c'est que ce qui peut expliquer un peu pourquoi des fois les monographies peuvent tarder pour les artistes qui allient les arts visuels et métiers d'art.
Oui, quelques années, oui. Il y a une espèce d'émergence d'artistes qui utilisent à la fois les métiers d'art et les arts visuels. Dans la mesure où ils ont une formation souvent spécialisée, soit en verre, en céramique, ou peu importe, mais qu'ils veulent dépasser les frontières purement des métiers d'art, purement traditionnels des métiers d'art, et faire quelque chose qui soit un travail d'expression. Et il y a pas mal d'artistes qui travaillent dans cette direction-là, et ils tombent un peu entre deux mondes, c'est-à-dire entre le monde des arts visuels contemporains et celui des métiers d'art. Ils appartiennent aux deux tout en étant directement liés à aucun des deux. Alors, c'est une situation dans laquelle Montserrat se trouve. Et
c'est pas facile pour obtenir des subventions.
Oui, exactement. Ils sont vraiment entre deux catégories. Et il faut toujours y aller précautionneusement en se disant, bon, quelles sont les chances qu'on ait plus de subventions de ce côté-là que de l'autre? Oui, ça devient compliqué à un moment. Et donc, en fait, ça, c'est ça. Je défends ces artistes-là depuis plusieurs années parce que je trouve que le savoir-faire qu'ils ont...
Quel combat! Encore une fois, félicitations!
Merci! Le savoir-faire qu'ils ont est un savoir-faire qui reste important.
Inscrit dans l'histoire aussi.
Oui, absolument. Oui, oui. Et aussi qui est porteur de grandes richesse visuelle. Alors, pour moi, c'est quelque chose d'important, même si ce n'est pas comme tel du métier d'art, ce n'est pas utilitaire, mais il reste qu'il y a un savoir-faire et ce savoir-faire-là est mis au service de l'expression.
Il y a vous avez parlé d'artistes en métier d'art qui sont dans deux catégories, mais il y a aussi des artistes visuels qui sont dans deux catégories,
oui.
Qui aident peut-être à reconsidérer le travail de ces artisans
tout
en métier
fait.
D'art.
Oui. Et souvent, ils vont faire appel d'ailleurs à des artisans pour pouvoir réaliser leurs œuvres parce qu'eux n'ont pas cette maîtrise technique-là pour pouvoir faire leurs œuvres. Donc, il s'agit d'un travail aussi de collaboration, mais... Donc, c'est ça. Il y a une espèce de va-et-vient entre les artistes en art visuel et certains artistes en métier d'art.
Alors, écoutez, donc, c'est quelque chose que vous avez observé de votre point de vue de commissaire d'auteur, docteur. Vous avez observé cette nouvelle collaboration depuis plusieurs années.
Oui, ça fait déjà pas mal d'années que ça émerge, mais il y a une espèce d'intensification depuis quelques années. Il y a beaucoup d'autres artistes. Il y a Michel Lapointe en verre. Il y a Laurent Crast en céramique. Oui. Il y en a plusieurs.
Oui. Et maintenant, parlons un peu, avant qu'on ait encore plusieurs questions à poser, des œuvres, des différentes séries d'œuvres qu'on peut avoir des descriptions plus précises dans la publication. Hein? Ça, c'est intéressant. Il y a différentes séries d'œuvres et thématiques.
Oui, tout à fait. Il y a des œuvres
en résumé.
Plus récentes. Oui, c'est ça. Il y a des œuvres plus récentes qui retracent vraiment les séries qui tournent autour de l'infertilité.
Oui.
Donc, les Yomi-Yoma, qui est un terme vraiment médical, mais qui en fait signifie la présence d'une masse à l'intérieur de l'utérus qui, disons, complique l'accouchement, ou en fait la fertilité. Et mais ce sont des œuvres qui sont vraiment spectaculaires du point de vue visuel et très féminines aussi, avec des couleurs tendres, des couleurs pastels, avec aussi des étoffes qui sont brodées souvent. Oui. Donc, il y a une richesse du point de vue de la texture, des matières qui est vraiment extrêmement plaisante à regarder et les images donc en témoignent dans la monographie.
Absolument. Donc, ce type d'œuvre-là, très inspiré de la botanique aussi, hein, mais comme de façon métaphorique.
Oui, tout à fait. Oui. D'ailleurs, dans la tradition du textile, ces textiles-là souvent ont des motifs végétaux. Et qui dit fleur, ben, dit forcément reproduction, étant donné que la fleur est la base même de la reproduction végétale. Alors, c'est, tout ça a un lien, forcément.
Oui. Et on voit aussi, bien sûr, dans la publication des expositions spéciales, des installations. Alors, écoutez, c'est des fort inspirantes. En tout cas, il y a donc les différentes séries d'œuvres alliant vraiment verre et textile en grande partie. Il y a toute une recherche. Je pense que Montserrat, Duran, Montada, vous avez puisé dans vos propres tissus, mais vous avez aussi eu recours à des personnes qui ont créé des tissus sur demande?
Oui, c'est vrai. Oui. J'ai travaillé avec Ilana Pichon, qui est une artiste qui habite ici au Québec aussi. Elle fait l'illustration et j'ai demandé de me faire des illustrations pour la thématique sur la maternité. Elle a créé des illustrations qu'elle a sérigraphiées sur des tissus qu'après je suis venue former des sculptures avec ce tissu-là. Oui, j'aime beaucoup la collaboration. J'ai travaillé avec Ariane Trottier qui a fait une illustration et on a fait un mural avec cette illustration.
Ah oui!
Et j'ai venu percer...
À Mont-Laurier, hein?
Oui, à Mont-Laurier, oui, très bien, hein, quelle mémoire. Donc oui, j'aime beaucoup collaborer avec d'autres artistes, surtout, oui. Souvent c'est des artistes qui m'approchent, souvent des artistes femmes aussi,
oui.
Qui se trouvent touchées par la thématique et qui aiment ça, apporter son point de vue aussi. J'adore ça, participer ensemble.
Et de là, le fait que vous avez été sélectionnée pour l'événement Post-Invisible qui met de l'avant la cause féminine. Alors,
oui.
Écoutez, c'était le cas donc le 10 mars dernier, ce beau lancement. Maintenant, un mot sur, présentez-nous cette exposition vraiment en cours qui a débuté récemment le 10 décembre au Château Dufresne, nommée « Les vestiges de l'âme ». Écoutez, quel autre titre inspirant.
merci beaucoup.
Oui.
Ben oui, c'est le Château Dufresne qui m'a approché. Il connaissait mon travail en verre et il voulait faire quelque chose parce que l'année 2022, ça a été l'année internationale du verre, donc il voulait qu'il y ait du verre dans le château. Il m'a approché pour que je fasse des pièces inspirées de l'histoire du château.
Écoutez.
Et quand j'ai rentré
là-dedans, c'est très émouvant.
Oh, wow! Ouais. Quand j'ai vu le style beaux-arts européen du château, moi, je ne savais pas que ça existait ça au Québec. J'étais tellement étonnée. Ça m'a fait, ça m'a fait encore penser à mes grands-parents, tout ce que j'ai vivé à la maison de mes grands-parents, qui là-dedans, il y avait encore des meubles de mes arrière-grands-parents, des objets de mes arrière-grands-parents, donc encore mon histoire familiale qui était au Québec aussi, un petit rappel de mon histoire familiale. Donc, j'ai créé des œuvres qui sont encore inspirées de mon histoire à moi.
De votre vécu intime aussi.
Oui, mais que j'espère qu'ils vont aller toucher beaucoup le public.
Parce que c'est intéressant, c'est que c'est une exposition qui prend place dans des chambres.
Oui.
Des chambres à coucher.
Oui, c'est d'origine. Des anciennes chambres. Oui. Et moi, j'ai vraiment, je suis allée chercher des meubles de cette époque-là que j'ai retouchés, j'ai intégré du verre, j'ai cousu du verre dessus.
Très original.
J'ai changé le mobilier, oui.
Le mobilier était changé. Ce n'est pas le mobilier d'origine. Bien sûr, vous ne pourriez pas travailler sur des du mobilier d'origine de Château-du-Frein.
Ils m'ont dit non, mais j'aurais aimé.
Je comprends. Oui. Alors, il y a des pièces majeures à voir sur place. Et vous avez aussi une autre œuvre qui nous permet de vous découvrir dans le passé.
Oui,
il y a
une vidéo dans laquelle c'est une souper de Noël de ma famille de l'année 81. J'étais pas encore née, je ne suis pas là-dedans. Ce sont mes sœurs qui me ressemblent beaucoup. mais parce qu'il n'y avait pas de vidéo de quand j'étais petite, c'est drôle. Donc, j'ai mis cette vidéo. Et donc, oui, un petit souvenir de qu'est-ce qui se passait les soirées de Noël chez mes grands-parents. Et je pense que c'est ça, c'est quand tu retournes dans ces souvenirs-là, on dirait que tu retournes à vivre toutes ces émotions, tout ce bonheur que tu vivais avec ta famille. Et pour moi, c'est un peu ça que je veux faire vivre au public aussi. Revenir à quand eux, ils étaient jeunes, quand ils étaient des enfants, quand on courait.
Et tout l'émerveillement qui accompagne bien souvent l'enfance.
Oui,
pas tout le temps, mais bien souvent.
Vraiment souvent, oui, c'est vrai.
Ou des souvenirs enjolivés
qui
ne sont pas toujours si jolis.
Oui.
Mais écoutez, vous avez quand même tout un événement qui s'en vient au Château Dufresne. Est-ce que, Pascal Baudet, vous avez semblé là, peut-être, êtes-vous impliqué dans cette exposition-là, les vestiges Vestiges de l'âme au Château du Frêne.
Pas comme tel.
Pas comme tel, mais vous allez participer tout de même à un événement d'importance.
Oui, en
fait. Parce que là, on en parle brièvement, mais beaucoup à dire là, sur l'exposition Vestiges de l'âme au Château du Frêne. Qu'est-ce qui s'en vient?
En fait, c'est dimanche prochain, il va y avoir une rencontre, une discussion entre moi et Montserrat, un peu comme on fait aujourd'hui.
Oui.
Mais ça va avoir lieu au Château du Frêne à 14h. Alors, c'est un dialogue entre elle et moi sur ses créations au château et de manière plus générale, ses œuvres.
Oui, d'accord. Alors, vous allez aborder tant son parcours que sa pratique que l'exposition présente.
Oui, avec un accent évidemment sur les œuvres au château. Et à partir de là, mais on va pouvoir broder sur le thème des autres œuvres.
Oui, broder parce que ce qui est intéressant dans les œuvres de Montserrat, c'est qu'il y a du tissu intégré au verre, mais il y a du tissu aussi superposé au verre. Alors, vous avez fait beaucoup d'explorations. Hein?
Oui.
Et tout ça est bien documenté dans la publication. Alors, toutes les explorations que vous avez pu faire. Alors, il faut lire cette publication. Et l'exposition, la discussion, donc, le 5 février est un événement d'importance à 14h. Et savez-vous jusqu'à quand va durer cette exposition-là? Moi, j'ai pas eu l'information.
Je pense que le musée est ouvert jusqu'à 5 heures. Donc,
dans le temps, là, combien de temps ça va durer? Jusqu'à quel mois?
À l'exposition? Oui. Jusqu'au 2 avril.
Jusqu'au 2 avril. Oui. Donc, écoute, ça laisse quand même du temps. Oui. Et en terminant, parlons de cette... écoutez, j'ai été étonnée de voir que vous allez participer avec une œuvre d'art publique.
Oui, j'ai ma deuxième œuvre d'art publique.
La deuxième? Félicitations encore.
Oui, qui va s'inaugurer le 30 janvier.
Donc, demain... Lundi.
Il va s'inaugurer, donc je vais être aussi au musée Armand Frappier pour inaugurer l'œuvre d'art et pour que tous les visiteurs puissent me poser des questions. C'était une œuvre d'art qui a été vraiment inspirée de la vie d'Armand Frappier, qui je ne connaissais pas beaucoup. Et quand j'ai commencé à travailler sur la pièce, je me suis rendu compte que c'était vraiment intéressant. J'ai pu voir ses dessins, donc ses dessins étaient très inspirants aussi, les dessins d'Armand Frappier. Quand il dessinait des molécules et tout ce qu'il voyait, il regardait dans son microscope et c'était une personne vraiment très intelligente, très, en fait la pièce s'appelle Vox non echo qui veut dire soit la lumière ne soit pas l'écho. C'est ça qu'Armand Frappier il disait et moi j'ai trouvé ça vraiment très, très beau, ouais.
Alors, j'y serai demain à cette inauguration. Alors, je vous en reparlerai, cher auditoire. Alors, écoutez, c'était un entretien absolument fort agréable. Hein. Merci d'avoir pris du temps aujourd'hui, samedi. J'aurais encore eu tellement de questions à vous poser, mais le temps limite en ondes, c'est bien malheureux. Alors, deux événements d'importance. En fait, la publication qui a été lancée quand même le 10 mars 2022, mais qui sera en vente, qui sera accessible au Château du Frêne, hein, la publication Engendrer l'impalpable, qui est devant moi. Écoutez, c'est extraordinaire, de Pascal Baudet.
Oui, puis elle est disponible aussi par nos sites web respectifs à Montserrat et au mien.
Et c'est d'importance. Et bien sûr, je vais m'entretenir avec Montserrat Duran Montadas. Merci pour cet agréable entretien. Je souhaite une bonne journée, une bonne fin de semaine. À lundi, Montserrat.
Oui, merci.
Merci à vous.
Merci beaucoup. Mais encore une fois, Pascal Baudet, vraiment, ça me fait un grand plaisir.
Vous écoutez le magazine radio In Situ sur Radio Centre-Ville 102,3 FM à Montréal.